15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. C'est du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h sur Europe 1. Il est à mes côtés tous les jours pour vous faire du bien, pour vous rassurer, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à un problème de santé assez fréquent et surtout très connu par l'intensité de la douleur qu'il provoque, la colique néphrétique. Ceux qui en ont déjà eu une s'en rappellent forcément et grimacent déjà peut-être, j'en suis sûre. Alors pourquoi ce caillou, ce calcul se forme dans les voies urinaires et dans le rein, comment ça se traite et surtout comment éviter la récidive. On fera le point avec notre invité, ce sera le professeur Gilbert Deray, chef du service de néphrologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler d'un effet inattendu d'un vaccin, celui contre le zona, qui pourrait aussi protéger contre le risque d'AVC, selon une nouvelle étude. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, on va parler d'un sujet un peu tabou, la vulvite. Comme son nom l'indique, ça se passe chez la femme au niveau de la vulve. Mais savez-vous de quoi il s'agit précisément? Comment ça se traite? On vous dira tout. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, elle répondra à la question d'un homme qui a des pannes sexuelles, mais uniquement quand il se retrouve avec une femme qui lui plaît vraiment. Elle nous dira comment expliquer ça et résoudre ce problème, bien sûr.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on écoute la première, c'est celle d'Aurélie.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Je vous téléphone, en fait, j'entends souvent l'expression « ça va, j'ai pas la gale ». Et en fait, je voulais savoir ce que ça veut dire. Enfin, c'est quoi avoir la gale?
Alors Jimmy, j'ai pas la gale, ça veut dire quoi? La gale, en fait, tout simplement, avoir la gale, c'est quoi?
Alors la gale, c'est une maladie de la peau qui est due à un sarcopte. Donc c'est un minuscule parasite de la famille des acariens qui a la capacité de pénétrer dans le derme, donc sous la peau, et de s'y reproduire. C'est une maladie qui est très contagieuse, qui est répandue partout dans le monde. Elle peut toucher tout le monde, mais essentiellement quand même des milieux plutôt défavorisés à la base, les milieux carcérales, les personnes SDF ou dans les collectivités où il y a des contacts répétés et rapprochés, car la gale est très fréquente et elle est liée notamment à des petits sarcoptes qui sont présents souvent sous la peau. Dans la gale commune, il y a très peu de sarcoptes, mais malgré tout, c'est responsable de petites épidémies. On contamine souvent les membres de la famille, ses partenaires sexuels, les enfants, et notamment dans les crèches ou dans les hôpitaux, ça peut faire des ravages.
Alors vous avez dit dans des milieux défavorisés, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est plutôt une maladie des pays en voie de développement. Or non, il faut quand même rappeler que chez nous, même en France, elle circule, cette maladie.
Elle circule, et même certaines études montrent qu'il y a plutôt une recrudescence de cette pathologie, y compris dans les pays développés. En 2010, le nombre de nouveaux cas de gale a été estimé à 328 habitants pour 100 000. Donc c'est quand même
c'est
assez...
en France, hein,
en France
ouais.
Exactement, c'est quand même pas mal. Donc elle sévit du coup par des petites épidémies dans des collectivités, typiquement les maisons de retraite, certains services hospitaliers, des écoles ou même des crèches.
D'accord. Et comment on sait qu'on a attrapé la gale? C'est quoi les signes finalement, les symptômes qui doivent faire penser que peut-être on a ce problème-là?
Le principal signe de la gale, c'est que ça gratte. Ça gratte énormément. Le fait que ces démangeaisons, elles sont liées à une réaction immunologique du sarcopte, liée à ces déjections, et qui du coup en général...
Quand le sarcopte fait caca, finalement, ça nous provoque une petite...
inflammatoire qui gratte. Et surtout, ça gratte la nuit. Le prurit nocturne, et souvent sans autre cause retrouvée, en dehors de l'eczéma, de l'allergie, de l'urticaire, nous fait souvent évoquer le diagnostic. On a parfois des petites lésions, et ça touche souvent la face antérieure des poignets, rarement le visage, parfois les cuisses, l'ombilic, les fesses et les organes génitaux. Et lorsque la gale n'est pas traitée, elle peut évoluer et vous donner des lésions sur tout le corps.
Très rapidement, Jimmy, donc si on a les signes dont vous venez de parler, on consulte évidemment. Et ça se soigne comment ensuite?
Oui, ça soigne plutôt bien. Le diagnostic, finalement, on ne fait pas d'examen parasitologique. On donne un traitement d'épreuve. On fait un traitement local de la gale qu'on peut faire, ce qu'on appelle un scabicide sous forme de lotion, crème ou spray. Et puis parfois, on peut donner un traitement par voie orale qu'on appelle l'ivermectine.
Oh, je le connais celui-là.
Efficace aussi
contre
dans les poux, exactement.
Dans les poux, mais résistants. Enfin, on en avait parlé dans cette émission.
Dans certaines formes de poux, exactement. On donne une fois et on donne une deuxième prise pour tuer le cycle parasitaire, une à deux semaines après. Et en règle générale, on traite l'entourage pour éviter qu'il soit contaminé aussi.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Alizée. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. On entend beaucoup en ce moment parler de mettre des malades en quarantaine avec le coronavirus. J'aimerais savoir d'où vient cette expression, qu'est-ce que ça veut dire mettre en quarantaine et pourquoi on dit 40. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne émission. Au revoir.
Jimmy, la quarantaine, alors bon, en ce moment, on en parle beaucoup, mais là, on va parler vraiment de l'expression en elle-même. C'est une vieille expression. On n'a pas attendu évidemment l'épidémie de coronavirus pour en parler. Ça remonte, je crois, au XIVe siècle.
Exactement, vous êtes très forte en histoire,
Mélanie. Oui, j'ai fait d'ailleurs un doc d'histoire à l'époque.
Très bien, mais vous êtes très forte en histoire et aussi en santé. Donc, effectivement, 1346, la peste noire décime l'Europe. Des galères venues d'Orient ramènent le fléau dans les grands ports. De là, le mal se propage. Il fait plus de 25 millions de victimes, soit plus d'un tiers de la population du vieux continent. Dans les ports, le besoin de se protéger des personnes infectées ou de celles qui le sont devient vital. Raguse, Gênes, Marseille, toutes les républiques maritimes prennent des mesures pour isoler les populations en provenance des zones infectées. Au départ, on décide donc d'isoler ces gens 30 jours, à attendre que la maladie se déclare ou non, puis ce délai passera à 40 jours, d'où ce terme de être mis en quarantaine.
Et depuis, finalement, dans l'histoire médicale, au-delà de la peste, il y a eu pas mal d'autres périodes où on a eu besoin de mettre en place des quarantaines comme ça.
En France, janvier 1955, la variole détectée à Vannes en Bretagne, et puis en 2003, on a eu le SRAS, notamment en Asie, au Canada, qui a conduit à une quarantaine de 10 jours à des milliers d'habitants. Et évidemment, là, en ce moment, on en a beaucoup parlé, on en parle, notamment en Chine, probablement la quarantaine la plus importante de l'histoire.
Et une quarantaine, c'est pas 40 jours toujours, on a compris.
Non,
hein, ça a été 30, là c'est, ça a été 40, et puis maintenant ça peut être parfois 14 jours. Hein,
exactement,
c'est
le délai d'incubation en attendant que la maladie se déclare ou pas. Là, on parle d'une quatorzaine pour dire qu'on reste au repos durant 40 jours.
À 14 jours, pardon. Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Alizé, qu'on vient d'entendre, vous voulez laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler d'un effet inattendu du vaccin contre le zona. Il pourrait protéger aussi contre le risque d'AVC. Et puis, on accueillera aussi notre invité, le professeur Gilbert Deray, grand néphrologue, avec qui nous allons parler de la colique néphrétique. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors à présent, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez d'une étude qui montrerait que la vaccination contre le zona pourrait réduire l'AVC, le risque d'AVC. C'est incroyable ça. Le lien, il paraît pas évident entre ces deux pathologies, non pourtant ?
Oui, et pourtant, une étude a été publiée dans l'American College of Cardiology et on avait inclus 500 000 patients sur une période de 10 ans. Et on avait identifié 23 000 cas de zona. Et on s'est rendu compte que les personnes qui développaient un zona avaient un risque supérieur de 59% de développer un accident vasculaire cérébral et de 41% un infarctus. Et ce risque est d'autant plus élevé dans l'année qui suit le zona. Donc il y avait déjà un lien qui avait été prouvé.
D'accord. Et donc la vaccination pourrait réduire ce risque, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ce qu'ont mis en évidence des chercheurs de l'université de Yale qui ont présenté cette étude au congrès de l'American Stroke Foundation à Los Angeles ou LA pour les intimes. Ils ont comparé 2 millions de personnes qui étaient inscrites à ce qu'on appelle au programme Medicare, donc le système d'assurance maladie aux États-Unis. 1 million ont été vaccinés contre le zona entre 2008 et 2014 et 1 million ne l'ont pas été. Ils ont bien sûr ajusté les résultats sur l'âge, le sexe, les origines et les antécédents médicaux. Mmh. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait une réduction du risque d'AVC de 16% chez vaccinées, réparties de deux façons. Un risque diminué de 18% pour les AVC ischémiques, qui est lié à un petit
quand c'est bouché.
Exactement, une artère qui se bouche dans le cerveau.
Bon, en gros, je dis quand ça s'est bouché ou quand ça saigne. Hein,
exactement. Et
ischémique
de 12% dans l'AVC hémorragique.
D'accord.
Ces résultats, ils sont d'autant plus importants que la population est âgée entre 66 et 79 ans. Et là, on a une diminution du risque de près de 20% pour les AVC.
Donc une diminution conséquente quand même. Comment on explique ce lien Comment ces chercheurs l'expliquent en tout cas?
Alors l'explication, elle est multifactorielle. Donc il y a plusieurs causes qui sont évidemment intriquées. Donc le zona arrive évidemment chez des sujets plus âgés et donc avec un risque d'AVC qui augmente avec l'âge. Et puis le mécanisme serait lié à un mécanisme inflammatoire de protection. Le virus du zona entraînerait une inflammation au niveau des artères et plus particulièrement celle du cerveau, favorisant l'AVC. Mmh. La vaccination protège donc à la fois du zona et surtout des douleurs post-zoostériennes, c'est-à-dire les douleurs qu'on a après que le zona soit passé. Et puis de l'AVC, c'est une forme de gagnant-gagnant au final comme deal. En revanche, on se demande si peut-être les patients qui ont été vaccinés peut-être sont des patients qui sont un peu mieux suivis.
Qui font un peu plus attention à leur santé.
Exactement,
aussi. Exactement,
qui ont une meilleure hygiène de vie et qui donc ont peut-être une meilleure prise en charge et donc font un peu plus attention et peut-être feraient moins d'AVC que les
peut-être
autres.
Peut-être pas tout à fait un lien de cause à effet, mais en tout cas une association entre les deux possible. Rappelez-nous quand même rapidement, la vaccination contre le zona, c'est pour qui ?
Alors on peut la faire à partir de 50 ans, qu'on ait eu la varicelle ou non. Elle est recommandée actuellement de 65 à 74 ans. On fait une dose unique sans rappel. Elle est plutôt très bien tolérée. Le seul effet secondaire, c'est une réaction de douleur et d'inflammation au niveau du point d'injection. Discutez-en avec votre médecin traitant, c'est le meilleur des conseils.
Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed pour toutes ces précisions. Et donc tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour, c'est le professeur Gilbert Deray. Il est chef de service de néphrologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris et l'auteur du livre « Les pouvoirs extraordinaires du rein » chez Fayard.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour professeur Deray.
Bonjour.
On vous reçoit une nouvelle fois dans cette émission. On avait parlé plus de votre bouquin en détail la dernière fois. Là, on va parler de la colique néphrétique aujourd'hui. Quand on en a une, ça c'est sûr, on s'en rappelle. Moi j'en ai une, je m'en rappelle très bien. Mais juste pour ceux qui ne sauraient pas, c'est quoi précisément une colique néphrétique ?
Alors, en fait, c'est une douleur qui était effectivement extrêmement violente et qui est liée à la mise en tension aiguë des cavités rénales. Dans les cavités rénales, il y a évidemment l'urine qui est formée, qui va s'écouler. Si vous bloquez cet écoulement de façon brutale, les cavités se mettent en tension, la capsule rénale se met en tension et c'est ça qui fait mal. Donc il y a un obstacle qui empêche les urines de s'écouler.
Et c'est ce qu'on appelle un caillou. On dit, d'ailleurs, on appelait ça la maladie de la pierre il y a très longtemps. Hein. C'est un caillou, hein, c'est ça ?
Effectivement, la maladie de la pierre ou le caillou, qu'on appelle aussi lithiase ou calcul, c'est 80% des causes d'obstruction. Donc il reste quand même 20%. Hein. Et tout ce qui va obstruer des cavités rénales va donner une colique néphrétique. Dans les 20%, vous allez trouver par exemple une tumeur à l'intérieur du rein ou même un cancer à l'extérieur qui pousse et qui comprime la voie urinaire, donc l'urètre. Le plus souvent, c'est un caillou.
Jimmy ?
Alors, urètre, urètre, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu la différence entre ces deux tuyaux ?
Pas pour vous, hein, mais pour nos auditeurs.
Ah bah oui, oui. Alors, c'est très simple. Le rein, qui est un organe absolument merveilleux, il y en a deux d'abord. Il y en a un de chaque côté de la colonne vertébrale. On rappelle qu'il est tout en haut, hein, il est juste sous la 12e côte.
C'est bien
et
de
pas,
dire où il est, parce que
bas,
les gens ne savent même pas où sont les reins.
Donc
parfois,
quand vous avez mal en bas du dos, ça n'est pas votre rein. Il est constitué donc d'un organe qui fait à peu près 11-12 cm, qui pèse 150 grammes, c'est pas lourd. Et puis l'urine va être collectée par des petits tubes, ce qu'on appelle des tubes collecteurs. Et l'urine va partir après dans des cavités qui vont aller vers l'extérieur. D'abord un petit bassinet, qui est une petite cavité un petit peu dilatée, puis l'urètre. Alors l'urètre, c'est le conduit qui va aller du rein à la vessie, un petit truc tout blanc qui est sur le fond de votre dos. Ensuite, cette urètre s'abouche à la vessie recueille l'urine, et de la vessie à l'extérieur, c'est l'urètre.
Très rapidement, est-ce que c'est fréquent comme maladie ou pas ?
C'est très fréquent.
C'est-à-dire ?
On considère qu'à peu près 10% de la population fera une colique néphrétique dans sa vie. Ce sont des dizaines de milliers de coliques néphrétiques tous les ans. Et l'homme, deux fois plus fréquent que la femme.
Très bien, professeur Deray, on ne fait que commencer cet entretien, vous restez avec nous. Dans quelques minutes, on vous en dit plus sur la colique néphrétique, quels signes doivent donner l'alerte. Attention à ne pas la confondre donc avec une lombalgie ou autre. Comment réagir si vous pensez en avoir une ? Qui consulter ? On fera le point, mais d'abord, on aime aussi vous faire du bien sur Europe 1. La musique adoucit les bobos, donc on écoute la chanteuse américaine Lauren Daigle avec une balade aux influences gospel, ça s'appelle You Say.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le néphrologue Gilbert Deray. Il est chef de service à la Pitié-Salpêtrière à Paris et l'auteur du livre « Les pouvoirs extraordinaires du rein » chez Fayard. Alors professeur Deray, vous nous avez dit tout à l'heure que la maladie de la pierre, la colique néphrétique, c'est quelque chose qui a existé déjà depuis longtemps. On l'appelait donc la maladie de la pierre. Il y a même des personnages très célèbres qui ont écrit là-dessus.
Ouais, absolument. D'abord, c'est très vieux. On a retrouvé une lithiase dans les ossements d'un jeune Égyptien de 15 ans il y a 4800 ans.
Une lithiase, on rappelle, hein, c'est ce qu'on appelle le caillou, vulgairement.
Donc c'est vraiment très vieux. Et oui, il y a plein de gens célèbres. Alors on citera Georges V, Léopold II, Cromwell, Pierre le Grand, Michel-Ange, Montaigne et même le pape Innocent XI qui en est mort. Et il y avait un point commun entre tous ces gens. C'est qu'en fait, ils mangeaient trop et pas bien. Et du coup, eh bien, ils faisaient des cailloux parce qu'ils accumulaient les mauvais minéraux, en particulier l'acide urique.
Alors, on reviendra sur les facteurs de risque de la colique néphrétique après. Juste, on va faire un point sur ce que c'est vraiment, c'est-à-dire comment on la reconnaît. Vous disiez tout à l'heure, bon, on a mal dans le bas du dos. C'est pas le dos, justement, c'est pas en bas du dos, c'est un peu plus haut. C'est quoi les douleurs ? On a mal où exactement ?
Alors, très précisément, et quand elle est typique, car elle ne l'est pas toujours, c'est une violente douleur qui est d'un côté. Pas des deux côtés, pas en bas du dos, qui est haut placée, sous la 12e côte, près de la colonne vertébrale. Et elle va irradier vers l'avant, dans l'aine, dans le creux là, au-dessus de la cuisse, et dans les organes génitaux externes. La douleur est extrêmement importante, très caractéristique. Vous n'avez pas de position antalgique, vous pouvez vous tourner comme vous voulez. Et c'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs...
On peut se coucher, s'asseoir, se rester debout.
Rien ne va vous calmer. Vous n'avez pas de fièvre, ça c'est très important. Vous aurez des signes urinaires. Ça va brûler quand vous faites pipi, vous aurez envie de faire pipi souvent. Et souvent des signes digestifs, vous avez envie de vomir ou même vous vomissez. C'est très caractéristique. Alors attention, elle n'est pas typique. Donc il faut bien la différencier d'autres types de douleurs. chez l'homme et chez la femme.
Jimmy ?
Et justement, comment est-ce qu'on peut faire la différence avec d'autres types, par exemple, d'infections, comme une pyélonéphrite ? Dans la pyélonéphrite, l'infection rénale, on a aussi de la fièvre, enfin, on a plutôt de la fièvre, alors qu'on ne doit pas en avoir dans la colique, mais la douleur peut être la même, il y a des diagnostics auxquels il faut penser à côté.
Oui, il y a pas mal de diagnostics auxquels il faut faire attention, la pyélonéphrite en est un. La pyélonéphrite, c'est une infection au niveau du rein, en opposition avec la cystite, qui est une opposition au niveau de la vessie. Lorsque vous avez une douleur rénale avec de la fièvre, ça peut être une pyélonéphrite bien entendu, et ça peut être une colique néphrétique. Il est très important de faire une échographie pour voir si les cavités sont dilatées et si on voit un caillou. Si vous avez un caillou avec de la fièvre et donc une infection urinaire, c'est alors une urgence absolue. Il faut absolument aller à l'hôpital tout de suite pour enlever le caillou.
Mais dans la grande majorité des cas, il n'y a pas de fièvre.
Dans la grande majorité des cas, il n'y a pas de fièvre.
En termes de douleur, juste pour donner une idée pour ceux qui n'ont jamais, eu ce plaisir, entre guillemets, c'est je sais pas, équivalent à la douleur d'un accouchement sans péridurale, évidemment, ou plus, ou moins.
Alors, on considère déjà que l'accouchement, c'est une douleur extrêmement douloureuse quand il n'y a pas de péridurale. Et c'est encore plus.
Plus que ça.
On l'a chiffré, c'est pas très beau, mais ça correspond à l'arrachement d'un pouce.
Oh.
Donc c'est pas très agréable. Et heureusement qu'il y a les médecins qui arrivent avec leur seringue d'anti-inflammatoire.
On les aime beaucoup à ce moment-là, Jimmy.
Effectivement. À quel âge on fait en général sa première colique néphrétique ? C'est une pathologie du sujet plutôt jeune ou d'âge un peu plus avancé ?
Vous avez deux types de colique néphrétique. Le plus souvent, c'est après 40 ans. C'est la colique néphrétique du déséquilibre alimentaire ou même du déséquilibre de vie tout court. Ça, c'est de loin le plus fréquent. C'est l'acide urique, c'est l'oxalate de calcium de la personne qui ne bouge plus, qui mange n'importe quoi. Si ça arrive avant, ce qui peut arriver, à ce moment-là, c'est qu'il y a un autre défaut. Soit vous avez un désordre endocrinien, par exemple une glande qui fonctionne trop, comme les parathyroïdes, et vous aurez alors trop de calcium dans le sang et dans les urines.
Parathyroïde, c'est une glande qui est derrière la thyroïde.
Exactement.
En fait,
elles sont quatre petites glandes qui sont accrochées là, sur la thyroïde dans le cou. Et la deuxième possibilité, à ce moment-là, c'est qu'il y a un défaut génétique qui fait que vous allez en mettre dans les urines plein de quelque chose. Ça peut être de la cystine, ça peut être du calcium. Donc c'est vraiment avant 40 ans, après 40 ans.
Mais ça reste rare, par exemple, à 80 ans, il est rare de faire un premier épisode. Moi, je me méfie toujours des premiers épisodes de colique néphrétique à 80 ans ou même plus.
Alors, oui, c'est rare, parce que quand vous faites un déséquilibre, on va dire alimentaire ou de vie, en général, c'est plutôt la cinquantaine. C'est entre 40 et 60 ans.
Le caillou, mais pas 40 ans à se former.
Après 80 ans, la violente douleur, il faut aller faire tous les diagnostics différentiels d'une urgence abdominale ou osseuse.
C'est sûrement pas ça. Et la douleur, juste pour encore la préciser un tout petit peu, elle arrive brutalement, elle est par vague, elle disparaît, est-ce qu'elle est constante ? Comment ça se passe ?
Alors c'est exactement ça, Mélanie, c'est-à-dire qu'elle va être très brutale, elle va s'installer brutalement. Si on ne fait rien, elle va durer entre 10 et 30 minutes.
D'accord.
Puis elle peut s'atténuer, pas obligatoirement, mais elle peut s'atténuer. En fait, elle s'atténue tout simplement parce que le caillou bouge sous la pression des urines, il laisse passer un peu d'urine. Donc du coup, la douleur s'atténue, puis il se rebloque. Et là, on est reparti pour une douleur. Donc on a l'impression que c'est bon, mais ça va recommencer tant que le caillou va être là.
Rien d'en parler, ça me donne mal au rein.
Et c'est souvent des patients qui atterrissent aux urgences ou qui font appel à des services de médecins à domicile comme SOS Médecins, puisqu'ils ne peuvent pas consulter. Donc il est urgent de voir quelqu'un. On ne laisse pas traîner une douleur de colique néphrétique.
Absolument. De toute façon, on n'a pas du tout envie de laisser rester
non,
avec une douleur de colique néphrétique.
De toute façon, on appelle, hein, ça c'est sûr.
On appelle le médecin qui, en général, fait tout de suite un anti-inflammatoire non stéroïdien, qui est vraiment le traitement de référence. Et en particulier le kétoprofène, il faut le citer parce que c'est vraiment le bon anti-inflammatoire. Et sauf si le diagnostic est évident, sauf avec pas de fièvre, avec pas trop de douleur, on va aux urgences de l'hôpital qui va vous faire en fait les radios et les quelques examens nécessaires pour faire le diagnostic.
Justement, si on arrive donc, on finit par arriver à l'hôpital, quels examens on fait ? C'est quoi l'examen de référence pour vérifier s'il y a bien un calcul, une lithiase, comme vous dites ?
Pour commencer, on l'examine cliniquement, bien, pour vérifier quand même qu'il n'y ait pas une urgence abdominale. Attention, j'ai une femme, kyste de l'ovaire, endométriose, occlusion intestinale, donc un bon examen clinique. Les radios, c'est bien, mais n'oublions pas qu'on a deux mains quand on est médecin. La deuxième chose, c'est qu'il faut après un couple d'examens. Donc soit vous avez un scanner sous la main, et le bon examen, c'est le scanner. Et il est rapide, ça prend 10 minutes, ça irradie pas beaucoup, et vous avez la localisation, vous avez la densité du calcul, et donc vous avez sa nature. C'est vraiment le très bon examen. Si vous ne pouvez pas, vous couplez l'échographie avec ce qu'on appelle un abdomen sans préparation. C'est une radio tout simple du ventre qui vous permet de voir s'il y a un caillou quand il est radio opaque, donc du calcium. Il ne verra pas l'acide urique.
D'accord. Merci Gilbert Doré, on n'en a pas terminé, vous restez avec nous. Europe 1. Dans un instant, maintenant qu'on a posé le diagnostic, c'est une colique néphrétique, comment ça se soigne ? Car je peux vous assurer que lorsqu'on le vit, on a très envie d'être soulagé au plus vite. On vous expliquera quels sont les traitements et puis on parlera surtout de prévention, comment éviter que cette crise revienne un jour, car c'est possible si on ne change rien à ses habitudes de vie. On en parle juste après, restez avec nous sur Europe 1. Mélanie.
Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Oui, c'est bon.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le néphrologue Gilbert Deray. Il est chef de service à la Pitié-Salpêtrière. Gilbert Deray, on a parlé un petit peu donc des examens d'imagerie qu'il faut passer pour vraiment poser ce diagnostic de manière définitive. Est-ce qu'il y a d'autres examens à faire quand même pour être sûr ?
Alors, dans l'immédiat et dans l'urgence, oui, il y a au moins deux examens importants qui sont premièrement de vérifier s'il n'y a pas une infection urinaire avec un ECBU. Et le deuxième examen, c'est le dosage de la créatinine pour voir si les reins marchent normalement. Parce que si vous avez une insuffisance rénale qui est en train de se développer, donc la créatine qui monte.
Urgence,
alors il va
urgence.
Falloir lever l'obstacle tout de suite en montant des sondes.
Alors justement, passons au traitement maintenant de la colique néphrétique. Ça commence par quoi d'abord? Vous soulagez la douleur, ça on en a un petit peu parlé. On fait une piqûre, mais est-ce qu'il y a le patient, donc on imagine qu'il faut lui faire évacuer ce... Alors est-ce qu'on peut l'évacuer tout seul ce caillou? Ça peut arriver, il peut sortir tout seul.
Alors absolument, il peut s'évacuer tout seul, ça dépend de sa taille et de son
donc
type.
On n'agit pas toujours, hein, c'est ça?
Non. Quand il fait, allez, on va dire, moins de 6 mm. Il a des chances de s'évacuer, donc on le laisse tranquille, sauf si la douleur devient impossible à supporter, ou sauf s'il développe une insuffisance rénale ou une infection urinaire avec de la fièvre. Auquel cas, il faut tout enlever. Mais sinon, on attend un peu, et il a toutes les chances de s'en aller. Si, par contre, il est plus gros, et ou, s'il ne s'est pas évacué...
Gros jusqu'à combien ? Parce que ça peut être gros jusqu'à...
Ah, ça peut faire des centimètres, ça peut mouler toutes les cavités rénales, c'est pas le plus fréquent.
C'est-à-dire un point, quoi, la taille d'un point ?
Ah, ça peut, oui, c'est un tout petit peu plus petit.
Vous en avez déjà vu des comme ça en consultation,
oui,
c'est
sûr.
De la folie.
Le plus souvent, ce qu'on voit nous, allez, entre 6 mm et 2 cm, le plus souvent.
Ça, c'est la taille moyenne.
Donc quand il fait quand même, ce qui est fréquent, hein, plus de 6 mm, 1 cm, 1 cm 5, il va avoir du mal à s'évacuer. Et à ce moment-là, il y a deux possibilités. Soit vous le cassez avec une lithotripsie extracorporelle.
C'est des ultrasons, en fait, c'est ça ?
C'est ça, c'est un faisceau d'ultrasons que vous mettez sur le caillou et vous l'exposez. Attention aux contre-indications, hein, la grossesse est une contre-indication, l'infection urinaire est une contre-indication, et si vous prenez des anticoagulants ou des anti-irrigants, sinon vous allez faire un hématome. Sinon.
D'accord, ça c'est
et
la
puis,
première façon.
La première. La deuxième possibilité, qui est en fait maintenant devenue la plus fréquente, c'est de monter une sonde par les voies urinaires. Donc vous montez par l'urètre,
par les voies naturelles,
vous passez
hein,
par
ça.
La vessie, vous remontez dans l'urètre, et là vous pouvez l'attraper votre caillou et même le casser avec un petit faisceau d'ultrason.
C'est comme maintenant, ça que vous faites vous en général
ouais. On fait deux fois plus maintenant de montées de sonde urétérale avec une petite poussée d'ultrason que de lait, que ce qu'on appelle comme ça, l'hydrotripsie extracorporelle toute seule, parce que finalement, en fait, on enlève tout d'un coup, parce que finalement, c'est plus simple. Et quand on fait l'hydrotripsie, il reste des fragments, et ça prolonge un peu la procédure.
Bon, autant aller tout enlever directement, méthodes. C'est sûr. Jimmy ?
Avant d'en arriver là, parfois les patients ont identifié le diagnostic de colique néphrétique et me disent, du coup, j'ai bu beaucoup d'eau pour évacuer le calcul. On est d'accord que même si ça paraît logique, ce n'est pas non plus l'idée du siècle.
Alors non, parce que le problème, c'est que si vous buvez beaucoup d'eau, vous risquez de mettre...
On m'avait dit de boire beaucoup hein, pour l'évacuer.
Non, parce que... ce qui va arriver, c'est que vous avez tous les risques que ça vous fasse beaucoup plus mal. Alors bien sûr, les cavités sous tension, ça va pousser plus. Mais la douleur peut être extraordinairement violente. Et attention, vous pouvez rompre vos cavités rénales. Ça aussi, c'est une complication. Donc moi, je ne vous recommande absolument pas de boire beaucoup. On a maintenant des antalgiques, des anti-inflammatoires et on va l'enlever, le caillou. Pas peine de vous faire souffrir. Vous diminuez notablement votre volume à 500 cc par jour maximum. Et de toute façon, dans les 48 heures qui vont suivre, on va vous l'enlever, votre caillou, ou il va s'en aller.
C'est ça.
Le plus souvent.
Et d'ailleurs, quand vous parlez des anti-inflammatoires, souvent les patients, donc je fais pas mal de visites à domicile, donc il m'arrive de voir des coliques néphrétiques. Et quand aujourd'hui je vais vous faire une injection.
Donc vous aimez les patients à ce moment-là, quand vous sortez votre piqûre, ils sont contents.
Parce que voilà, on soulage rapidement. Mais est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi le kétoprofène, les anti-inflammatoires soulagent ? Ce n'est pas simplement une action antalgique, ça peut vraiment libérer le calcul.
Absolument. En fait, quand vous avez un caillou, il se passe plusieurs choses. D'abord, vous avez un œdème qui est dans l'urètre, qui est autour du caillou. C'est de l'inflammation, ça. Et la deuxième chose qui se produit, qui est paradoxale, c'est que vous allez libérer une hormone qui s'appelle les prostaglandines. Et les prostaglandines vont augmenter le flux sanguin dans le rein, ce qui va augmenter la quantité d'urine, ce qui va augmenter la douleur. Donc les anti-inflammatoires, ils vont empêcher cette augmentation du flux sanguin, ils vont diminuer la quantité d'urine et vous soulager, puis ils vont diminuer les œdèmes qu'il y a autour de l'urètre. J'ajouterai un petit conseil pratique quand vous avez une colique néphrétique, la chaleur marche bien. Prendre un bain chaud, mettez une bouillotte, prenez un bain chaud, mettez-vous sous la douche.
Ça agit comment du
tout
coup,
suite.
Ça agit sur la douleur ou ça agit
vasodilatation.
Sur... Ah d'accord, ça c'est un bon conseil. Le bain chaud, en plus c'est agréable.
En attendant le médecin avec son injection.
C'est ça, avec la piqûre magique.
Avec la piqûre magique.
Vous avez dit que donc, la technique la plus utilisée aujourd'hui, on va dire, pour se débarrasser du caillou, c'est donc la sonde qu'on monte par les voies urinaires pour aller le chercher, ce caillou. Une fois que vous l'avez fait, que vous l'avez enlevé, le patient il est immédiatement soulagé ou est-ce qu'il peut garder des douleurs un peu parce que ce caillou il a peut-être abîmé un petit peu à l'intérieur. On reste douloureux quelques temps après ou pas?
Ce qui est caractéristique, c'est que vous aviez une douleur très intense et tout d'un coup, c'est le nirvana. Vous vous sentez bien, vous n'imaginez même pas, je ne vous le souhaite pas, mais c'est extraordinaire. Donc, oui, la douleur disparaît tout de suite. Bien sûr, il va rester une sorte de tension parce que vous avez eu tellement mal ça peut prendre quelques heures pour que le reste disparaisse, mais rien.
Alors malheureusement, quand on a fait une crise de colique néphrétique, grâce à vous, on vient de la soulager, on n'en a plus, c'est réglé, mais le risque de récidive est important. Je crois que c'est vraiment assez fréquent. Hein. C'est à comment on quantifie ce risque, je veux dire, de récidive.
Si vous ne faites rien, vous avez un risque de récidive de 70% à 5 ans.
Wow.
C'est considérable. Alors là, on va laisser de côté l'aspect génétique, hein, qui est le moins fréquent.
Oui, on n'en parlera pas aujourd'hui.
Parlons de l'aspect mal de vivre, où on ne vit pas bien, on fait n'importe quoi. Oui, il faut faire une prévention, c'est absolument capital. Ce d'autant que la colique néphrétique, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un signal. C'est votre corps qui vous dit hey, « oh, faut te bouger un peu, hein, parce que ça ne va pas, comment tu vis ?»
Justement, il y a des facteurs de favorisant la colique néphrétique. Il y en a plusieurs, on va les détailler un petit peu avec vous. Le fait de ne pas boire assez d'eau, de manière générale, hein, je veux dire, est-ce que ça, c'est un facteur de risque?
C'est le facteur de risque. Une colique néphrétique, donc un caillou, hein, c'est typiquement un déséquilibre entre la quantité d'eau et la quantité de minéraux, et d'autres éléments que je vous indiquerai.
Jimmy ?
C'est vrai que moi j'en vois plus, en tout cas en été, des gens qui ne boivent pas assez, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que l'alimentation, souvent on nous pose la question, est-ce que dans ce qu'on mange, il y a des choses qu'il faut éviter pour la formation de calcul, ou au contraire, éviter la récidive?
Absolument. Les grands facteurs qui vont faire la colique néphrétique, c'est donc pas assez boire. Vous avez cité, par exemple, le fait d'être dans le désert ou en vacances. Il y a aussi les boulangers ou les chaudronniers, par exemple, qui vivent dans la chaleur et qui vont perdre 4 litres d'eau par jour.
Et qui font plus de colique néphrétique que les autres.
Alors. Ah oui, ouais. Et les personnels navigants dans les avions, du fait de la climatisation. Après, le déséquilibre, il se fait dans ce que vous avez en trop et dans ce que vous n'avez pas. Alors, ce que vous pouvez avoir
en trop... Qu'est-ce qu'on a
en trop,
d'abord?
C'est
trop
d'acide urique, trop de purine, la viande. La viande animale.
Trop de protéines animales.
En particulier, donc les purines. Donc ça, c'est pour l'acide urique. Ça peut être trop de calcium, ça peut être
trop d'acide. On boit trop de lait, trop de laitage, oxalique, trop de fromage.
Par exemple. Et puis l'autre élément, attention, c'est que dans ces équilibres, il y a des facteurs qui, au contraire, sont anti-lithogènes, anti-cailloux, comme le potassium, comme l'acide citrique. Ça aussi, c'est l'alimentation.
Ça, on va y revenir après dans les facteurs anti-cailloux. Je reviens sur ce qui nous provoque éventuellement la colique néphrétique. Vous dites donc, pas boire assez d'eau, ça c'est un facteur, c'est le principal. Combien il faut boire d'eau du coup pour l'éviter?
On recommande, en conditions de vie normale, dans un pays tempéré, peut-être que ça va plus durer, c'est à peu près 1,5 litre par jour. Et si vous avez fait une colique néphrétique, 2 litres par jour.
2 litres pour les coliques néphrétiques.
Et très important, la répartir tout au long de la journée.
Ah.
On boit toute la journée, ça sert à rien de boire 2 litres le matin. Et on boit un verre avant de dormir.
Pourquoi avant de dormir, c'est important la nuit.
Parce
hein,
que, en fait, le rein, qui est un organe merveilleusement sympathique et intelligent, pour ne pas que vous vous leviez la nuit, il concentre les urines. Mais s'il concentre les urines, alors il va concentrer les cristaux. Et donc, il faut l'empêcher de concentrer trop ses urines la nuit.
Vous avez dit trop de calcium, trop de laitage, par exemple. Est-ce que donc, ça veut dire qu'ils doivent arrêter tout lait, tout yaourt, tout trop...
Surtout pas. Ah. Surtout pas. Comme toujours, le corps, c'est d'être à l'équilibre.
Donc, il ne faut pas s'en passer non plus.
Il y a, par exemple, on va prendre le calcium. Le calcium, c'est 0,8 à 1 g d'eau par jour. Surtout, vous ne vous mettez pas en régime pauvre en calcium, même si vous faites des lithiases de calcium, car il a parfaitement été montré que vous augmenterez votre risque.
En étant en déficit de calcium.
Alors, si vous n'en mangez pas assez, vous augmentez votre risque. Parce que ce que va faire votre organisme, c'est qu'il va aller le puiser dans l'os. Il va absorber tout ce qu'il peut comme autres minéraux, comme l'acide oxalique. Vous en ferez plus. Donc, vous devez respecter votre régime en calcium normal. Pas plus, bien entendu. Mais normal.
Très intéressant. En tout cas, il vaut mieux consulter quand même quelqu'un pour nous donner les bons repères. Hein. Je pense que quand on a une colique, un néphrologue peut donner ce genre de conseils. Hein.
Ça, c'est un point très important. De toute façon, si vous faites une colique néphrétique, il vous faut un entretien avec un spécialiste.
Pour faire un bilan nutritionnel.
Et pour la nutrition, c'est jamais des fiches qu'on vous donne. C'est on vous interroge pour savoir ce que vous mangez, puis après on vous dit ce qu'il faut faire.
Jimmy ?
Justement, vous avez parlé un petit peu de la viande. Du coup, quand on a fait des calculs, il faudra en manger à quel rythme ?
La quantité de protéines conseillée, c'est 0,8 à 1 gramme kilo jour.
Ça fait quoi ça comme quantité? Parce
0,8
pour les gens,
à 1,2 gramme kilo jour.
C'est un steak par jour, c'est quoi?
1 gramme kilo jour. Alors après, bah, ça va dépendre de la quantité de ce que vous mangez comme aliment.
Donc pas à tous les repas, j'imagine.
Si vous prenez, alors on conseille toujours pour les protéines animales de ne pas manger à tous les repas. De toute façon, c'est plutôt 2 fois par semaine pour la viande. Ça va dépendre. Si vous prenez par exemple du bœuf, c'est 30%. Donc ça veut dire qu'un tiers de votre bœuf va contenir des protéines de type animal. Donc vous regardez vos aliments. Un œuf, c'est 12 grammes à peu près, 10 grammes, 12 grammes. Donc vous calculez combien votre aliment contient et vous faites. Sachant aussi qu'il va être très important de mélanger protéines animales et protéines végétales. Jamais que de l'un. Hein. Faut pas prendre que des protéines animales. C'est
toujours avec
très
des légumes.
Bon,
avec.
Oui, c'est tout jamais très bon. Ça.
Alors justement, donc, on va passer à ces familles d'aliments, ces nutriments anti-cailloux. Vous nous avez dit qu'il y en avait. Vous avez parlé de l'acide citrique, par exemple, qui était protecteur vis-à-vis
absolument
de ces cailloux. Il y en a dans quoi de l'acide citrique?
Alors là, c'est très simple, c'est fruits et légumes. Voilà. Donc dans votre alimentation, il doit y avoir des fruits et légumes qui vont vous apporter plein de potassium, ça c'est très important, de l'acide citrique, et qui également vont faire en sorte que votre pH urinaire ne soit pas trop bas, ce qui favorisera les cailloux d'acide urique.
Jimmy ?
Du coup, on fait quoi ? On mange des fruits, vous avez dit, citron, agrumes ?
On va rester sur 5 fruits et légumes par jour. Mmh. Et effectivement, dans les fruits, alors citron, très bien, orange, très bien. On a un doute sur le pamplemousse. Vous faites des cailloux, je vous déconseille de faire du pamplemousse tous les jours. Pour le reste, tous les autres fruits et légumes ne posent pas de problème.
Qu'est-ce qui est riche en potassium et en magnésium? Parce que je crois que ces deux nutriments-là sont importants aussi.
Alors, pour le potassium dans les fruits et légumes, vous en avez
déjà,
des tonnes. Pour le magnésium, vous en avez par exemple beaucoup dans les épinards. Hein, vous trouverez, vous prenez une petite assiette d'épinards, vous avez votre dose de 80 mg de magnésium dont vous avez besoin.
J'ai l'impression finalement le régime idéal, c'est le régime méditerranéen.
C'est
hein.
exactement ça. C'est, alors d'ailleurs, le régime méditerranéen a été montré comme étant un élément préventif de la lithiase et des cailloux. Parce que, pourquoi ? Bah, tout simplement parce que vous allez diminuer votre apport de protéines animales, vous allez augmenter vos apports de fruits et de légumes, vos apports de légumineuses. Vous aurez 2 à 3 œufs par semaine, ce qui ira très bien pour les protéines dont vous avez besoin. Il est parfait, le régime méditerranéen.
Il y a des maladies quand même, je crois, qui favorisent aussi la lithiase, le caillou, le calcul, auxquelles il faut faire attention. Et dans ce cas-là, là, j'imagine, c'est quelle maladie? Et puis, du coup, il faut les traiter, j'imagine.
Oui. Vous avez des facteurs favorisants et des maladies. Alors, ce qui va être favorisant, c'est tout ce qui va bloquer l'écoulement des urines. Par exemple, si vous avez ce qu'on appelle un rein en fer à cheval, ce sont vos deux reins qui sont réunis par le bas, là.
Ça, on ne sait pas toujours, si on a jamais été regardé.
Donc, vos urines circulent moins bien. Ou quand vous avez une duplicité de vos voies urinaires. Vous avez deux urtères de chaque côté, par exemple.
Ça, on ne le sait pas facilement, quand même. Hein.
Voilà. Alors, on finit, on vous trouve une lithiase, on fait les examens et on
d'accord
vous le trouve. Ou des vaisseaux qui croisent et qui vous enlèvent l'écoulement normal des urines.
Il n'y a pas le diabète aussi ?
Alors, après, vous avez des facteurs qui sont des facteurs favorisants pour des raisons métaboliques. Le diabète, l'obésité, qui vont vous doubler le risque de cailloux, parce qu'en fait, ils vont modifier votre pH urinaire et la quantité de calcium et d'acide oxalique dans les urines.
Jimmy, une dernière question.
Obésité, il faut du coup perdre du poids pour éviter certaines coliques néphrétiques?
Il faut faire plusieurs choses. Il faut faire un petit bilan, parce que souvent, il y a des carences déjà. Il y a des carences en potassium, il y a des carences en vitamine D qu'il faut absolument corriger. Il y a des carences pour l'acide citrique qu'on peut facilement corriger. Il faut effectivement perdre du poids, puis il faut rééquilibrer le type d'aliment. Moins de protéines animales, plus de fruits, plus de légumes, plus d'activité physique. Un programme de santé raisonnable.
Merci beaucoup, professeur Gilbert Doré, d'être venu sur notre plateau nous dire tout ce qu'il y a à savoir sur la colique néphrétique et surtout sur les moyens de la prévenir. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Les pouvoirs extraordinaires du rein chez Fayard. Merci encore.
Merci.
Dans un instant, notre chronique Les bobos du quotidien. On va parler d'un sujet un peu tabou uniquement parce que ça se passe en dessous de la ceinture, la vulvite, comme son nom l'indique, au niveau de la vulve chez la femme. Mais savez-vous de quoi il s'agit précisément? On vous dira tout. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps à présent de passer à notre séquence Les bobos du quotidien. Aujourd'hui on parle de la vulvite, savez-vous précisément de quoi il s'agit? Comme son nom l'indique, ça se passe au niveau de la vulve, chez la femme évidemment. Mais par quoi est-ce provoqué? Est-ce que ça fait mal? Notre journaliste Benjamin Lévesque, qui n'a pas peur d'aller vous poser toutes les questions hein, justement, vous a interrogé. On écoute son micro-trottoir.
Vulvite, ça fait vraiment penser à... Non, je confonds avec valve, donc c'est aucun rapport.
Je pense que ça touche la vue. Quelque chose lié à la vulve?
Une infection de la vulve?
C'est quoi les vulves?
Ah, les testicules!
Une infection de la vulve.
C'est vrai que le terme IT, ça fait penser à une MST.
Comment ça pourrait s'attraper? Soit par des rapports peut-être non protégés, ou après dans les toilettes qui seraient infectées, ou des choses comme ça.
J'espère pour la personne que ça se soigne, ça serait un peu inquiétant sinon.
Se soigne, je pense, par antibiotiques.
Sûrement avec des crèmes et des choses comme ça, comme pas mal de des crèmes, des ovules, ou des trucs comme ça.
Jimmy, on parle de la vulvite à présent, avant d'expliquer ce que c'est que ce bobo. Peut-être un petit mot d'anatomie quand même, ça fait toujours du bien. On est là pour ça aussi dans cette émission. Pour ceux qui se demanderaient ce qu'est la vulve précisément, c'est quoi la vulve, Jimmy?
Bon, déjà la vulve, tout le monde sait que ça se trouve sous la ceinture, vous
oui,
l'avez dit,
ça, globalement,
sous le pubis. Et en fait, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on pense.
C'est pas un petit truc, c'est un ensemble
exactement,
de choses.
C'est
en fait,
un ensemble d'organes génitaux externes de la femme. Donc ça comprend les grandes et les petites lèvres. ce qui entoure le méa urinaire, la partie externe du clitoris et son capuchon, ainsi que l'entrée ou le vestibule du vagin.
Oui, donc c'est un petit ensemble effectivement d'organes externes. Alors, quand on a une vulvite, Jimmy, on parle de quoi en réalité? Parce que bon, moi je sais que quand il y a un it à la fin d'un mot médical, en général c'est pas bon signe de toute façon.
C'est vrai, qui dit it dit inflammation, donc vulvite c'est l'inflammation de la vulve, et elle est souvent associée à ce qu'on appelle une vaginite, lorsqu'elle est d'origine infectieuse, c'est-à-dire dans un contexte d'infection ou de maladie, la vulve peut devenir inflammée et ça peut être douloureux et rouge. Les causes sont plutôt diverses. On a des causes parfois bactériennes avec le gonocoque, qui est une IST, les germes, notamment le streptocoque, le staphylocoque, des entérobactéries, certains champignons. Dans ces cas-là, on a une vaginite associée, le candida albicans, des parasites ou même certains virus qu'on peut retrouver notamment comme l'herpès, la syphilis, qui donne notamment ce chancre mou.
D'accord. Alors, on a compris les causes de vulvite, donc elles sont très diverses, mais j'imagine que le résultat, c'est que les traitements aussi sont divers. Hein.
Rien ne vous échappe, Mélanie. Vraiment, c'est un plaisir d'être avec vous. Et effectivement, la vulvite n'est pas une maladie en soi, c'est le symptôme d'une infection. Et donc, on traite l'infection qu'on a identifiée. Si c'est une infection bactérienne, il vous faut des antibiotiques. Si c'est un champignon, on vous donne un antifongique. Si c'est un virus, un antiviral.
Bon,
bref,
ainsi de suite,
vous l'aurez compris,
voilà.
On ne traite pas simplement la vulve, mais surtout la cause qui a déclenché cette inflammation.
Et il faut préciser d'ailleurs que la vulvite, c'est pas uniquement un problème de la femme adulte. Hein, ça peut aussi toucher les petites filles, Jimmy. Hein.
Exactement. Et ça peut être un symptôme fréquent et qui a conduit à des consultations, notamment chez les petites filles. Ça entraîne des démangeaisons et surtout des douleurs qui peuvent simuler une infection urinaire. Les petites filles font pipi et ça pique car l'urine passe à travers le méa, passe vers la vulve et donc c'est douloureux. Et notamment chez les enfants, car au niveau de leurs lèvres, au niveau génital, elles sont peu développées et donc peu lubrifiées. Et à ce moment-là, elles ne remplissent pas tout à fait leur rôle de protection au niveau de la zone vulvaire. Et la moindre irritation, notamment lorsqu'elles vont aux toilettes, les petites filles vont un petit peu moins bien s'essuyer. Ça peut entraîner une inflammation qui est bénigne, mais qui reste malgré tout douloureuse.
Et à cet âge-là, du coup, on traite comment?
Chez les petites filles, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est à ce moment-là déjà d'éviter certains contacts comme le vélo, rester dans des bacs à sable, le port prolongé d'un maillot de bain qui serait mouillé, notamment, ça c'est plutôt chez les grandes personnes. Et puis souvent, on prescrit un petit savon antiseptique qui n'irrite pas les organes génitaux.
Il y a d'autres conseils, type les vêtements pas trop serrés, c'est ça je crois, quelques petits conseils pratiques.
Exactement.
Aussi pour elles.
Alors lavez-vous le matin et le soir, la zone lésée, avec un savon qui est surgras. Les produits d'hygiène en pharmacie, ils sont disponibles et vous pouvez les prendre. Et au quotidien, vous l'avez dit, les culottes au coton, on préfère ça, on évite les matières synthétiques et comme vous l'avez dit, on évite tout ce qui est pantalon trop serré.
Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed pour tous ces conseils. Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après c'est la chronique sexo. Aujourd'hui notre sexologue Catherine Blanc répondra à la question d'un homme qui a des pannes sexuelles, mais uniquement quand il se trouve avec une femme qui lui plaît. Elle nous dira comment expliquer ça et résoudre son problème. Mais d'abord, on écoute de la musique. Avant de parler de sexe, on parle souvent d'amour. Ça tombe bien, on écoute Michel Polnareff avec son morceau sorti en 1967. Ça s'appelle Love Me, Please Love Me.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés le docteur Jimmy Mohamed et elle entre à l'instant même dans le studio, c'est Catherine Blanc, notre psychanalyste et sexologue. Bonjour Catherine, vous allez bien?
Je vais très bien, je vous remercie. Et vous?
Mais très bien, ravie de vous retrouver. Jimmy aussi est tout content, là je vois. Hein,
C'est
sa chronique préférée, vous le savez, on le cache plus. Alors Catherine, donc aujourd'hui on a une question d'un certain Benjamin qui a 27 ans, je vais vous lire sa question. Lorsque j'ai des coups d'un soir, tout se passe bien sexuellement, mais dès que je rencontre une fille qui me plaît sérieusement, je n'arrive pas à avoir d'érection. J'aimerais votre avis. Alors Catherine, ça arrive souvent cette panne chez les garçons, mais alors justement avec une femme qui lui plaît quoi.
Absolument, parce qu'il y a une sorte de scission entre la sexualité pour la sexualité, ne tenant pas compte de l'autre, en tout cas en termes émotionnels, et les enjeux d'une relation dès lors que l'autre est important. Dès lors que le désir de l'autre, l'amour de l'autre, l'attention de l'autre est importante, et bien tout d'un coup la pression monte, mais elle ne monte pas dans le pénis. Et du coup, ça fait du coup une difficulté à trouver, à être à la hauteur. C'est-à-dire qu'il y a une idée que je ne serai pas à la hauteur qui entraîne que je ne suis pas à la hauteur.
Mais c'est quand même bizarre, puisqu'il dit que quand il a des plans d'un soir, ça marche très bien, ça veut dire qu'il peut marcher très bien. Donc pourquoi avec la femme de ses rêves, ça ne fonctionne pas?
Alors, mais parce que physiologiquement, tout va très bien, mais ce serait dommage de considérer que la sexualité n'est qu'une histoire de mécanique. La mécanique peut aller parfaitement bien et s'enrayer complètement dès lors que l'émotionnel vient s'en mêler là-dedans. Donc ça pose la question de la légitimité que l'on s'accorde à pouvoir être aimé et à pouvoir être aimé en retour. Aimer et aimer en retour, Alors que quand l'autre n'est pas si important que ça, et quand de toute façon on ne sera que de passage et l'autre aussi, eh bien les enjeux ne sont pas les mêmes.
Et là, la mécanique, tout roule. Jimmy ?
Est-ce que ça veut dire que Benjamin méprise un peu ses coups d'un soir et qu'il les voit un peu comme des objets sexuels qu'il peut enchaîner et passer les uns après les autres sans aucun attachement ?
Absolument. C'est effectivement considérer l'autre comme un objet et se considérer aussi comme l'objet de l'autre, et sans que ça pose le moindre problème de ce côté-là.
Alors du coup, est-ce que ça veut dire qu'il doit essayer de se concentrer, de faire un effort avec sa partenaire dont il rêve, ou au contraire, ça va être contre-productif de se mettre un peu de pression ?
Non, je pense que se mettre de la pression, c'est justement la pression qui est à l'origine de sa difficulté. Donc c'est simplement se dire pourquoi la valeur de l'autre, tout d'un coup, doit entraîner une non-sexualité. Comme si la sexualité, finalement, bien que accueillie joyeusement dans une histoire d'un coup d'un soir, pourquoi elle est considérée suffisamment sale ou suffisamment irrespectueuse pour ne pas pouvoir trouver sa place avec quelqu'un qui mériterait le respect et l'amour et la propreté des liens. Donc c'est vraiment une question qui laisse à penser que la sexualité a un caractère négatif, bien que perçu très agréablement, mais en tout cas un caractère négatif en termes de partage. On partage quelque chose qui est un peu, qui est sale, ou qui ne raconte pas la qualité d'un lien. Et dès lors qu'il y a un lien...
Qui n'a aucune importance, en fait, c'est ça.
N'a aucune importance. Et dès lors qu'on créerait de l'importance, on créerait du lien avec une inquiétude parce qu'on va se quitter, on va se retrouver. Est-ce qu'il va vouloir me retrouver ou est-ce qu'elle va vouloir me retrouver ? Donc, de fait, je n'en sais rien. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Résultat, bien tout s'en mêle et je fais la démonstration par A plus B que je ne peux être que quittée, abandonnée parce que pas au rendez-vous.
Et qu'est-ce qu'il peut faire alors Benjamin pour résoudre ça ? Parce qu'apparemment cette fille dont il parle, quand il rencontre une fille qui lui plaît sérieusement, ça marche pas. Il y a pas une technique là pour il imagine qu'il s'en fout, enfin je sais pas.
Non, alors, en termes de technique, il n'y a pas. Et puis c'est surtout pas autour du sujet de la sexualité en réalité. C'est vraiment au sujet de la valeur de soi, de l'idée qu'il a de lui-même et de l'amour qu'on lui porte, ou des enjeux pour être aimé, peut-être dans l'éducation, qu'est-ce qu'il me fallait être ou pas, qu'est-ce que j'ai été ou pas, est-ce que j'étais à la hauteur de ce qu'on attendait de moi ou pas, est-ce que je suis défaillant, est-ce que je suis objet d'une frustration à l'égard de mes parents d'une manière ou d'une autre.
Donc pour que ça fonctionne, il faut qu'il se pose toutes ces questions-là en fait.
Oui, ouais. Et donc là, pour le coup, c'est plutôt un sujet autour de la psychologie au sens plus large du terme, de sa construction de petit garçon, de jeune homme et d'homme, dans le lien amoureux, c'est-à-dire d'abord dans le lien avec les personnages d'amour, à savoir parentaux les parents, mais parentaux plus largement.
Jimmy ?
Et pour essayer de casser ce cercle un peu vicieux d'angoisse qui entraîne la panne entraîne l'angoisse, il n'y a pas de raison de prendre une petite pilule un peu pour stimuler ce qu'on appelait à l'époque le Viagra.
Jimmy, le docteur, il veut trouver des médicaments.
Non, mais pour essayer de se dire, allez, une fois ça marche, ça a marché, donc les fois d'après ça marchera, c'est une mauvaise idée ça ?
En fait, vous savez, moi j'ai observé qu'il y avait des patients, même dans la table de nuit, elle marchait déjà la pilule en question. Donc c'est tout à fait amusant de se dire qu'effectivement, dès lors que l'on fait la preuve de la compétence, on s'appuie sur la preuve de la compétence pour récidiver la compétence. Donc oui, vous avez raison. Après, moi je préfère... toujours trouver les ressorts en interne, parce que sinon on croit que c'est grâce à la pilule en question et du coup on est attaché aux médicaments pour être à la hauteur, et sans parler bien sûr que si la jeune femme en question découvre la pilule en question, elle va avoir le sentiment que ce n'est pas une érection pour elle, mais grâce à une pilule, ce qui est évidemment une erreur, puisqu'il faut un désir pour que cette pilule fonctionne.
Donc pas de pilule, mais plutôt se questionner sur lui-même.
Pour mettre le pied à l'étrier, pas nécessairement pour que ça devienne le ressort de la relation.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils, et donc à demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, notre grand dossier du jour sera consacré à l'hypochondrie, la peur d'être malade, une phobie qui peut dans certains cas vous gâcher la vie. Nous verrons demain de quoi il s'agit concrètement et comment soigner cette hypochondrie. Mais tout de suite, on retrouve comme chaque jour Mathieu Noël et son équipe Sauvage. Je suis sûre qu'ils sont en pleine forme. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Restez avec nous, l'équipe Sauvage arrive avec un acteur, comédien, bilingue, franco-hongrois, également historien à 16h. C'est Laurent Deutsch qui nous accompagne. On va parler de son spectacle romanesque adapté de son best-seller où il revisite l'histoire, la folle histoire de la langue française. On devrait passer un moment convivial et joyeux.
J'en suis sûre. Merci Mathieu. Nous vous souhaitons une très bonne émission, pleine de bonne humeur comme tous les jours. Et vous, restez sur Europe 1.